mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Dans un livre d'entretien, Les origines de la culture, René Girard revient à plusieurs reprises sur sa vision du christianisme. Voici quelques extraits caractéristiques. René Girard, dans votre livre « Je vois Satan tomber comme l'éclair », vous affirmez que le désir mimétique et la rivalité sont révélés dans la Bible. Réponse de René Girard. Oui, et c'est là quelque chose d'essentiel à mes yeux. Dans le livre de la Genèse, le désir est clairement représenté comme mimétique. Ève est incitée par un serpent à manger la pomme, et Adam désire ce même objet par l'intermédiaire d'Ève dans une chaîne mimétique évidente. Il y a aussi un élément d'envie dans le meurtre d'Abel par Caïn, et l'envie, c'est la rivalité mimétique. Le dernier commandement du Décalogue, « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. » Ce dernier commandement interdit très explicitement le désir mimétique. Le commandement énumère tous les objets qu'on ne doit pas désirer, mais s'arrête au beau milieu de cette entreprise qui se révèle impossible. Pour ne rien omettre, il suffit de mentionner le dénominateur commun de tous les objets désirés. Ils appartiennent tous au voisin. En nous interdisant de désirer tout ce qui appartient à son prochain, le dernier commandement interdit le désir mimétique. Ce dernier commandement est l'interdit essentiel, celui qui les résume tous. Si on peut respecter celui-là, les précédents ne poseront aucun problème. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Quatre crimes contre le voisin. D'où viennent tous ces crimes ? Le dixième commandement répond « du désir mimétique ». Les derniers mots « rien de ce qui appartient à ton prochain » ne peuvent pas s'interpréter autrement. Ainsi, la notion de désir mimétique est très nettement suggérée dans l'Ancien Testament. Les évangiles disent la même chose, mais en termes d'imitation et non plus d'interdit. La plupart des gens pensent que le thème de l'imitation dans les évangiles est limité à un seul modèle, Jésus. Mais c'est faux, nous sommes toujours déjà dans l'univers suggéré par le dixième commandement de Dieu. Jésus nous recommande de l'imiter, lui plutôt que le prochain, pour nous protéger des rivalités mimétiques. Le modèle qui encourage la rivalité mimétique n'est pas forcément plus mauvais que nous. Il peut même être meilleur, mais s'il désire de la même façon que nous, de manière égoïste, avide, nous imiterons son égoïsme, comme lui le nôtre, et nous serons l'un pour l'autre de mauvais modèles, forcément rivalitaires, qui finissent toujours par se battre avec leur imitateur. Depuis votre livre « Des choses cachées depuis la fondation du monde », vous développez une nouvelle approche de la Bible, en particulier des évangiles, que vous étudiez d'un point de vue anthropologique. Vous affirmez qu'il y a dans la Bible une question anthropologique décisive concernant le mécanisme de la victime, vision qui non seulement révèle, mais aussi refuse le mécanisme mimétique. Réponse de René Girard. C'est bien ce que je pense. L'anthropologie mimétique consiste à reconnaître la nature mimétique du désir et à développer les conséquences de ce savoir, à innocenter la victime unique et à comprendre que la Bible et les évangiles ont fait cela avant nous et que nous nous guidons sur eux pour le faire à notre tour. Pour résumer, le mythe est contre la victime alors que la Bible est pour. Dans le cas de Job, par exemple, on assiste à une sorte de procès totalitaire et inquisitoire. Et les échanges avec les trois « juges » entre guillemets constitue une illustration exemplaire du principe de l'unanimité. Les « amis », toujours entre guillemets, de Job essaient de le convaincre qu'il mérite d'être condamné. Et de temps à autre, il faiblit, il est prêt à reconnaître qu'il est coupable. Finalement, il se redresse et affirme « Je sais, moi, que mon défenseur est vivant, que lui, le dernier, se lèvera sur la poussière. » Le mot « défenseur » est très important, et le mot « paraclet », qui définit l'Esprit Saint, est lié à ce concept. En grec, « parakleitos » signifie « avocat de la défense ». Contre l'accusation formulée par Satan, c'est-à-dire étymologiquement « l'accusateur ». Dans Job, les trois amis sont les accusateurs, donc la voix de Satan. Satan est la voix de l'ancienne religion, de l'ancienne exécution, mais cette voix est contestée par Job. Dans l'ancien ordre sacrificiel, la crise mimétique était résolue par le déclenchement du mécanisme émissaire, qui polarisait toute la violence sur une seule victime. Ceux qui accusent la victime sont les représentants de Satan, l'accusateur, tandis que le Christ est la voix du défenseur, qui nous avertit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Jean 8, 7. Toute la différence entre l'archaïque et le judéo-chrétien tient dans ces attitudes opposées. Je ne fais que répéter ici ce qu'a dit Nietzsche, mais dans un tout autre esprit. Lui a pris le parti des persécuteurs. Il croit penser contre la foule. Il ne voit pas que l'unanimité dionysiaque est la voix de la foule. Il suffit de prendre les évangiles à la lettre pour voir que le Christ n'a guère qu'une demi-douzaine d'apôtres de son côté, et que même ceux-là vacillent. Ce que Nietzsche ne perçoit pas, c'est la nature mimétique de l'unanimité. Il ne saisit pas le sens de l'éclairage apporté par le christianisme sur les phénomènes de foule. Il ne voit pas que le dionysiaque, c'est la foule, et que le chrétien, c'est l'exception héroïque. René Girard, pourquoi le phénomène du meurtre fondateur est-il si difficile à établir? Le mot « phénoménon » signifie « briller, apparaître, surgir en pleine lumière ». Le meurtre fondateur est le phénomène qui ne peut pas apparaître, parce que s'il atteint son but, tout le monde est uni contre la victime, qui apparaît vraiment coupable. Et s'il manque son but en revanche, si l'unanimité ne se fait pas, il n'y a plus rien à voir. Pour que ce phénomène devienne observable, il faut que les témoins lucides soient très peu nombreux, est trop insignifiant pour troubler l'unanimité des persécuteurs. Et c'est bien le cas de la passion. Il ne faut pas s'étonner si les premiers défenseurs de Jésus sont tous voués à partager son sort et à devenir des martyrs, c'est-à-dire des témoins de la mort du Christ. Le premier martyr est Étienne. Dans la scène de sa lapidation, il y a Saul, le futur Paul, qui observe et encourage la mise à mort. Saul, lui, approuvait ce meurtre. Actes des Apôtres 8:1. Sa conversion au christianisme vient de la conscience qu'il prend plus tard d'être un persécuteur injuste. La question que Paul entend est essentielle. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Actes des Apôtres 22, 7. C'est la question cruciale. Toute conversion chrétienne nous fait découvrir que nous sommes persécuteurs sans le savoir. Toute participation à un phénomène de bouc émissaire est la même faute que la persécution du Christ. C'est pourquoi tous les hommes commettent cette faute. Question. Le mécanisme mimétique aurait donc à voir avec le péché originel? Réponse de René Girard. Oui, bien entendu. Le péché originel est le mauvais usage de la mimésis, et le mécanisme mimétique est la conséquence essentielle de cet usage au niveau collectif. Généralement, les gens ne perçoivent pas le mécanisme mimétique, alors même qu'ils participent intensément à toutes sortes de rivalités. Le mécanisme mimétique produit une forme complexe de transcendance qui joue un rôle essentiel dans la stabilité dynamique des sociétés archaïques. On ne peut pas le condamner d'un point de vue anthropologique, sociologique, puisqu'il est indispensable à la survie et au développement de l'humanité. C'est la transcendance sociale de Durkheim. Pure idolâtrie du point de vue judaïque et chrétien, mais c'est ce sacré illusoire qui préserve les communautés humaines archaïques de ce qui pourrait les détruire. Les puissances et les principautés dont parle Paul sont condamnées, et elles finiront par disparaître. Mais il ne faut pas essayer de les détruire par la force, il faut même leur obéir. Le sacré archaïque est satanique quand il n'y a rien pour le contenir et le canaliser, et les institutions sociales sont là justement pour faire ce travail aussi longtemps que le royaume de Dieu ne triomphe pas. René Girard. Le jugement de Salomon est l'un des textes antisacrificiels les plus puissants de l'Ancien Testament. Il est au cœur de votre réflexion dans votre livre « Des choses cachées depuis la fondation du monde » où vous tentez de définir la possibilité d'un espace non sacrificiel. Réponse de René Girard. « Des choses cachées depuis la fondation du monde » est entièrement construit autour de ce texte. Comme vous le savez, il s'agit de deux prostituées qui se disputent un tout petit enfant. Chacune affirme devant le roi que l'enfant est le sien et que l'autre l'a volé. Alors Salomon fait apporter une épée. Il propose de couper l'enfant en deux pour en donner la moitié à chacune des deux femmes. L'une des deux mères accepte, mais l'autre refuse et préfère renoncer à son enfant afin de le sauver. Cette action est prophétique du Christ. J'ai suggéré qu'on ne devrait pas utiliser le même mot pour définir le comportement de la mauvaise prostituée et celui de la bonne. La mauvaise prostituée accepte le sacrifice, le meurtre, alors que la bonne les refuse. À l'époque, je ne voulais pas dire que celle-ci se sacrifiait elle-même, parce que j'avais encore peur de l'objection du masochisme. On ne peut pas dire qu'une femme prête à mourir pour son enfant est masochiste, simplement parce qu'elle veut sauver cet enfant. Le texte insiste sans cesse sur le fait que la bonne mère renonce à l'enfant pour que l'enfant vive. Elle ne veut pas mourir, mais elle est prête à tout subir et même à renoncer à l'enfant pour que l'enfant vive. C'est aussi le vrai sens du sacrifice du Christ. Dans Des choses cachées depuis la fondation du monde, j'ai dit qu'il n'y a pas de différence plus grande que celle existant entre ces deux actions. C'est pourquoi j'ai refusé d'utiliser le même mot pour les décrire. Et puisque le sens de sacrifice comme immolation, meurtre est le plus ancien, j'ai décidé que le mot sacrifice devait s'appliquer au premier type, au sacrifice meurtre. Aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Il ne fait aucun doute que la distance entre les deux actions est la plus grande qui soit, et c'est la différence entre le sacrifice archaïque, qui détourne contre une victime tierce la violence de ceux qui se battent, et le sacrifice au sens chrétien, qui consiste à renoncer à toute revendication égoïste, à la vie s'il le faut, pour ne pas tuer. C'était quelques extraits du livre de René Girard, Les origines de la culture. Merci de votre écoute. À notre prochaine rencontre.